Salut tout le monde, moi c'est Éléonore.
Et moi c'est Valentine.
Et on fait partie du podcast Levé de Rideau du FTUL, donc du Festival de Théâtre de l'Université Laval.
Vous allez me dire, qu'est-ce que le podcast Levé de Rideau? C'est un podcast qui cherche à présenter des acteurs des arts vivants au Québec, que cela soit par leur thématique, leur métier ou leurs aspirations. Nous voulons faire découvrir des aspects plus méconnus de ces formes d'art au Québec.
Aujourd'hui, c'est Isabelle Hubert qu'on vous présente.
Dramaturge québécoise, ses pièces sont connues et jouées partout dans la province. Elle a gagné de nombreux prix avec ses textes. Parmi ses pièces, on retrouve La robe de Gulnara et Couteau, cette façon originale de tuer quelqu'un avec. Elle va venir nous parler du métier d'auteur de théâtre et de tous les enjeux qui s'y rapportent.
Passons à l'interview.
Alors, fais une deuxième fois juste pour être sûr.
Let's go.
Ok.
Aujourd'hui, c'est Isabelle Hubert qu'on vous présente.
Dramaturge québécoise, ses pièces sont connues et jouées partout dans la province. Elle a gagné de nombreux prix avec ses textes. Parmi ses pièces, on retrouve La robe de Gulnara et Couteau, cette façon originale de tuer quelqu'un avec. Elle va venir nous parler du métier d'auteur de théâtre et de tous les enjeux qui s'y rapportent.
Quand je pense aujourd'hui, tu sais, je vois pas ma vie autrement. Puis maintenant, j'ai une petite compagnie de théâtre. plusieurs années. Puis on a fait plein de productions, puis tout ça. Donc, c'est quand même... Tu sais, je suis une employeur, j'emploie des gens. Mon chum, il m'a dit souvent, tu sais, ben, tu pourrais jouer, tu pourrais jouer dans certains de tes spectacles, te donner un rôle, j'aurais la possibilité de le faire. Et j'ai plus du tout envie, tu sais, ce désir-là, j'ai, tu sais, du jour où j'ai compris que j'aurais voulu être comédienne, simplement pour faire du théâtre, pas pour être comédienne, tu sais. On dirait que le désir s'est évaporé, puis je m'épanouis tellement dans l'écriture que j'ai plus du tout envie, en fait, même ça serait un stress beaucoup trop immense, je serais terrorisée. Puis j'ai vu tant et tant de bonnes comédiennes après, tu sais, que j'ai fait. Je pense que je suis meilleure en écriture, tu sais.
Ouais.
J'ai un peu compris pourquoi j'avais pas été prise.
Mais t'as-tu joué professionnellement une ou deux fois ou absolument pas?
Non. J'ai joué, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, cégep université, j'ai joué énormément.
Ouais.
Tu sais, j'ai fait, puis ça a été long, là, tout ça. Ça a duré 6 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre. Je faisais de la mise en scène. Je faisais vraiment une pratique de comédienne metteur en scène, même si je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Oui. Il y a eu une petite période, là, justement, avant mon entrée à l'École nationale, où on se qualifiait de semi-professionnel parce qu'on faisait, faisait du théâtre justement en Gaspésie pendant tout l'été, puis on chargeait, tu sais, quand même, il y avait un prix d'entrée, puis tu sais, on faisait 40 représentations, puis mais on n'était pas considérés comme des... tu sais, on n'était pas même pas membre de l'Union des artistes, tu sais, on était juste des... On était des saltimbanques. Oui. Ça fait que, donc, j'ai joué à ce moment-là, dans cette période-là. Après, j'ai fait l'École nationale, puis j'ai plus jamais rejoué. Sauf que dans ma pratique d'auteur, d'autrice, j'ai eu souvent à lire mes textes avec un micro, devant un public, ou, tu sais, de façon théâtralisée un peu. Puis là, c'est merveilleux, parce qu'à chaque... quand ça arrive, les gens viennent me voir après, puis ils disent « Mais c'est fantastique! Vous êtes comédienne! » Là, je dis « Non, mais je préfère être une autrice qui est bonne qu'une comédienne qui est mauvaise. »
Ça fait un peu penser à... comme si c'était le métier qui vous avait choisi, en fait.
Mais oui, c'est vrai, c'est tellement bien dit. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, exactement, ouais. En fait, je suis allée, il y avait comme presque un chemin, mais tu sais. puis j'ai erré un peu avant de trouver ma place. Puis quand je suis tombée dessus, ben, tu sais, c'est ça, c'est pas non plus un rayon de ciel qui arrive avec une chorale de 500 chanteurs qui fait « Wow, ça y est, tu as trouvé ta place.
Comme dans Harry Potter, quand la baguette le choisit.
Oui, exactement. Malheureusement, c'est pas comme ça, tu sais, ça prend un peu de temps, puis pour, tu sais, pour pouvoir le raconter avec tout le recul, il faut malheureusement avoir atteint mon âge vénérable. C'est des affaires, c'est des pièces. C'est un très long puzzle. Il est très long. Ouais. Tu sais, on met une pièce une fois par mois, tu sais. Il y a 10 000 pièces dans ce puzzle. Fait que, ouais. Ouais. Voilà.
Moi, j'avais une petite dernière question. Je ne sais pas combien de temps ça fait.
J'ai une question,
ouais, c'est sûr qu'on a... Okay. Mais juste pour l'instant, c'est quand est-ce que vous avez vraiment décidé que c'était être auteur qui allait genre être votre plan, on va dire?
Ben justement, la lumière, c'est pas... C'est pas... Je me suis pas réveillée en sursaut une nuit.
Oui, c'est sûr, c'est oui, sûr. C'est ça, ça a pris du temps, des étapes. Peut-être quand est-ce que vous avez su que c'était peut-être mieux d'aller vers là et que...
Ben quand je, comme je vous l'ai expliqué, quand je suis rentrée à l'École nationale, j'avais déjà... j'étais même pas... C'était même pas quelque chose de totalement accepté. Mm-hmm. Tu sais, on m'aurait offert d'être comédienne, j'aurais plus jamais écrit un mot, puis j'aurais... Ouais. Tu sais, je me serais précipitée. Quand je suis sortie de l'école, justement, 3 ans plus tard... Je vous ai dit, j'aurais abandonné le théâtre au profit de l'écriture. Mmh. Mais quand ma pratique a commencé, donc là, après, ça y est, là, j'étais affranchie de l'école, j'étais travailleuse autonome, j'ai commencé à écrire, donc, en n'étant pas payée. Mon premier rapport d'impôt, j'ai déclaré 800 $, c'est ce que j'avais gagné dans une année.
C'est pas grand-chose.
Non. Puis mon chum était un jeune comédien, c'est lui qui me faisait vivre, imaginez comment. Et donc, quand j'ai commencé ma pratique, ça a été un choc de voir comment c'était difficile, tu sais. Parce que de le faire, j'avais envie de le dire en anglais, on my own. Mais tu sais, en fait, j'avais toujours, jusque-là, à part les lettres que j'avais écrites dans mon adolescence, j'avais jamais écrit sans que ce soit une commande scolaire. Ça avait toujours été un professeur qui m'avait demandé d'écrire quelque chose, tu sais. Oui. Puis là, je me suis sentie justement un peu déséquilibrée. Comment je fais ça? Bon, OK. J'écris ce qui me tente. Tu sais, quand on est à l'école, on bénéficie du privilège scolaire de se tromper quand même, tu sais. Puis là, j'avais comme pu... Oh, je l'ai vraiment senti, tu sais, ce privilège-là. Ciao, bye! S'en aller. Puis j'ai trouvé ça vraiment plus difficile. Les premières années, là, je répétais sans cesse à qui voulait l'entendre, tu sais, je ferai pas ça toute ma vie. C'est trop dur. J'avais vraiment le sentiment de suer sang et eau, de souffrir le martyr en écrivant. On dit, je ne sais plus, je pense qu'on l'a dit tantôt, là, c'est des beaux métiers, on adore vivre le théâtre, tout ça. Puis je me disais, mais tu sais, ça aurait été 1000 fois plus facile de ramasser les déchets avec les éboueurs. Là, c'est ça, j'avais vraiment... C'était accompagné d'une très, très grande souffrance que personne ne pouvait comprendre. Je vois vous avez devant moi des airs tellement compatissants. Je vous Mais je peux vous dire que mes parents ne le comprenaient pas, puis tant d'autres personnes, tu sais, je disais, oui, mais je souffre. Ah, ben non, c'est facile pour toi, t'es bonne. Non, c'est souffrant. Puis en fait, avec le temps, j'ai développé justement toutes sortes de stratégies. J'ai développé ma méthode. J'ai continué d'apprendre. Justement, j'ai continué à me perfectionner. Et c'est devenu moins souffrant. C'est devenu... Tu sais, j'ai trouvé toutes sortes de façons d'éviter toutes ces étapes-là. Puis, tu sais, c'est encore pas facile. Je pense que les gens pourront, à moins d'écrire, là, de vivre l'expérience, ouais, d'écrire, mm-hmm, comme, les gens peuvent pas comprendre comment ça peut être difficile d'écrire, tu sais. Mais donc, je dirais là que c'est après peut-être 7 ou 8 ans de pratique que en fait, je me suis même pas dit un jour, bon, ok, c'est correct. Mais j'ai senti la souffrance en aller, j'ai senti le questionnement, puis je me suis, en fait, en y repensant aujourd'hui, je me dis, j'ai arrêté de dire ça. Je ferai pas ça toute ma vie parce que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, en y repensant à rebours, tu sais, je fais, ouais, j'ai complètement arrêté de dire ça parce que c'était évident que j'allais faire ça toute ma vie. Mais bien que c'est pas tellement vrai, je vais continuer dans mon récit parce que là, j'ai écrit toute ma trentaine, toute ma quarantaine, et vers la fin de ma quarantaine, j'ai eu une autre petite crisette. Oh, j'ai eu plein de crises liées aux âges, ouais, et tout ça. Là. Mais tu sais, vers la fin de la quarantaine, à un moment donné, c'est comme si j'ai regardé le milieu du théâtre, puis je me suis dit, mais il n'y a pas beaucoup de place, hein, pour une femme de 50 ans, tu sais. Puis est-ce que la parole d'une femme de 50 ans est encore pertinente, est encore intéressante dans le milieu du théâtre? Je dis pas dans la vie, hein, notez bien, je dis vraiment pas dans la vie, je dis juste dans le monde du théâtre, parce que tout à coup, j'ai regardé, puis je me suis dit, ah, c'est vrai que l'écriture théâtrale, c'est beaucoup une affaire de jeunesse. Il n'y a pas tant de vieux auteurs qu'on est curieux d'aller entendre. Moi, la première, je suis beaucoup plus intéressée à porter l'oreille aux jeunes auteurs qu'aux vieux auteurs. Qu'est-ce que cet auteur vieux a à dire? Ça ne m'intéresse pas tant que ça, franchement. Mais bon, je nommerai pas de nom, hein. Non, mais c'est ça. Puis bon, on est encore dans une société patriarcale. T'sais, il semble que, ouais, c'est pire pour les femmes que pour les hommes. Ça fait que... Mais j'ai été... tu sais, ça n'a pas été une crise très, très bouleversante, tu sais. J'ai fait, depuis le temps que je veux écrire un roman. Puis ça, dans les autres milieux de la littérature, c'est beaucoup... ça me semble... vraiment moins pire. C'est que je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'éloigner tranquillement, pas vite, du milieu du théâtre, et j'écrirai qui est un roman, qui est un rêve aussi que j'ai depuis toujours, parce que je dessine un peu. Donc, c'est de faire un roman graphique. Mmh. Tu sais, j'ai tellement envie de ça. Puis j'ai pas le temps, parce que je suis assaillie par les projets de théâtre et tout ça. Fait que je me disais, tiens, tant mieux! Ciao, bye, le théâtre! Je vais faire d'autres projets. Et c'est fou parce que depuis 5 ans à peu près, il y a une... j'arrive pas à me débarrasser du théâtre. c'est de pire en pire. Les projets sont débarqués dans ma vie à une vitesse fulgurante. J'arrive pas à libérer la liste, ma to-do list de tous les projets qui s'accumule. Donc, je me dis, je ferai pas l'affront quand même au théâtre qui m'offre tant et tant de le rejeter carrément, tu sais. Puis là, en fait, tant que la source va couler, je vais rester les deux pieds dedans, ça c'est sûr. mais disons que le jour où justement, je vais sentir que je vais sentir que ma parole a plus tout à fait sa place dans le milieu. Tu sais, je suis vraiment à l'affût de ça, là. Puis je le dis sans aucune amertume, vraiment, tu sais, parce que c'est quelque chose que je suis la première à identifier, tu sais. J'ai vu des pièces un peu ringardes, là, tu sais, d'auteurs qui s'accrochent, là, tu sais. Ouais. Puis moi, je veux vraiment pas être ça. Tu sais, je sais que ça, par exemple, ça fait longtemps que je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu sais, puis peut-être que j'écrirai une pièce qui va sembler ringarde aux yeux de certains, puis qu'il ne sera pas pour les autres. Puis justement, je me dis, tu sais, le théâtre offre pas beaucoup de place à la réalité, justement, des personnes vieillissantes. T'sais, le théâtre fait un peu d'âgisme quand même, mm-hmm. là, t'sais, parce que des pièces là, sur la difficulté d'être en couple dans la trentaine, il y en a 1 million. Oui. Mais justement, des pièces sur des personnes âgées, il y en a si peu, t'sais, où c'est toujours, t'sais, le point de vue d'une personne jeune sur une personne aînée, hargneuse, là, et détestable. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je ne me retirerai pas du théâtre avant d'avoir fait d'avoir essayé de comprendre ça. Là. D'avoir donné la parole. On dit souvent, là, ceux qui n'ont pas de voix, c'est évidemment les poqués, les exclus de la société, les pauvres, les sans culture, les sans scolarisation, tout ça. Mais il y a aussi les personnes âgées, tu sais.
Ouais. Ouais. Mais j'avais entendu une actrice plus de cinéma,
ouais.
Parce que je pense que l'agisme est encore plus
pire. Oh, mais chez les comédiennes, cinéma, c'est
sur les comédiennes, qui a dit que quand tu es une femme au-dessus de 35 ans, tu vas c'est soit terminé. Être oui. la vilaine oui. ou vraiment les parents, ou c'est vraiment tu vas oui. un oui. rôle vraiment secondaire qui n'aura pas beaucoup d'importance dans l'histoire.
Absolument, absolument. Puis moi je l'ai vécu comme, c'est fou, là, c'est une expérience vraiment marquante. À un moment donné, je suis allée en résidence à l'étranger avec, c'était une résidence qui réunissait des gens de partout dans la francophonie. Mm-hmm. Puis il y avait deux journalistes qui nous suivaient pendant la résidence et tout ça. C'est qu'on est débarqués. D'un peu partout, des hommes, des femmes, et il y avait des très jeunes autrices, et on était deux autrices, tu sais, dans plus mûres, disons, on était dans la... À ce moment-là, j'étais fin quarantaine, tu sais. Et c'est à travers les yeux, en fait, chez mes collègues, non. Tu sais, chez les auteurs, je sentais aucun âgisme. Mais chez ces deux journalistes-là qui étaient deux hommes dans la, tu sais, justement, dans la un peu fin trentaine, je pense, il y avait, nous, les deux femmes mûres, n'existions pas. Et tu sais, j'avais entendu des comédiennes dire « on est invisible », puis j'avais jamais mesuré cette... tu sais, oui, je comprenais que c'était une figure de style, tu sais, tout ça, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai fait mais oui, je veux dire, on est assis tout le monde autour de la table, les journalistes parlent aux hommes, parlent aux magnifiques jeunes filles, et si on est là, si je suis là, ils passent par-dessus moi, puis comme si, tu sais, puis ils parlent à mon suivant, tu sais, je suis littéralement invisible, je n'existe pas, tu sais, c'est comme, je suis le meuble, tu sais, je suis un meuble. Puis j'ai pensé à mon propre réflexe, tu sais, dans plein de situations de ma vie où, effectivement, une petite madame, ça n'a aucun intérêt, tu sais. Puis j'ai fait « Oh, je suis une petite madame! » Je suis la petite madame que j'ai moi-même rejetée, parfois, parce que... Une ouais. petite madame. Puis j'ai pensé, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est tellement touchant. Son nom m'échappe. Zut. C'est un acteur qui a joué... Dustin Hoffman a joué un film dans les années 80, pas très bon, qui s'appelle Tutsi. OK? C'est un film où c'est un peu... Enfin, c'est un film où il, pour avoir un rôle, l'acteur, il se transforme en femme parce qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas, là, tu sais, c'est une comédie légère avec un minuscule brin de propos social. Puis, donc, Dustin Hoffman, il raconte, en entrevue des années et des années plus tard, il raconte que quand il s'est installé au maquillage pour la première fois, il a dit, mais... fait que je sois une belle femme. Et non, en fait, il n'était pas une belle femme. Il était une madame, là, tu sais. Puis en plus, il commençait déjà à être un peu vieux, tout ça, tu sais. Ça fait qu'il avait vraiment l'air, justement, de cette madame, de cette petite madame, tu sais. Puis, ben, lui a fait quelques expériences, tu sais. Il est allé dans des... Il est allé dans des soirées en tant que femme pour voir si son personnage pouvait passer pour une femme. Oui, il passait pour une femme, mais il ne passait pas pour une belle femme, il passait pour une petite madame. Donc, il était invisible. Et lui, en racontant ça, se met à pleurer et à dire « Je suis quelqu'un d'intéressant, tu sais. J'avais quelque chose à dire. J'étais une personne humaine, mais personne ne me voyait. » Et j'ai pensé à toutes ces femmes que je n'ai pas, à qui je n'ai pas adressé les paroles et qui devaient être des femmes formidables, tu sais. Mais juste parce qu'ils étaient des petites madames, ils étaient trop vieilles, pas assez belles, je ne leur ai pas donné le temps qu'ils méritaient, tu sais. Puis là, il est répandu en larmes, tu sais, c'est toute sa vie qu'il re-questionne, tu sais.
Ouais.
Puis en fait, j'ai repensé à ça pendant ma résidence, parce qu'effectivement, ces deux foutus journalistes-là, j'étais vraiment clairement une petite madame à leurs yeux, tu sais.
Mm-hmm.
Puis c'est fou parce qu'un peu plus tard, dans toute la résidence, on a fait des entrevues, parce qu'il était là pour ça aussi. Puis soudainement, ben, je parlais avec eux comme je vous parle là maintenant, tu sais. Et ils me l'ont dit, ils l'ont même pas caché. « Mais dis donc, vous êtes vraiment intéressante, tu sais. » Je... Oui, 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 je suis vraiment intéressante. Là...
Oui, c'est ça, c'est... Ouais.
Oui, c'est ça. En tout cas, donc bref, vieillir pour une femme, c'est pas facile dans nos métiers. Ouais. C'est vraiment pas facile.
Au Québec, il y a vraiment encore cette société patriarcale qui est vraiment genre les hommes qui vont vraiment plus avoir...
Un micro, c'est
vraiment eux qui vont avoir l'attention principale. Après, c'est les jeunes femmes qui sont jolies et tout, et qui attirent du coup le regard des hommes, et c'est pour leur intérêt qu'ils vont aller leur
absolument
parler. Et pas vraiment par rapport à ce qu'elles font.
Oui, c'est ça, parce qu'ils sont... parce que c'est les personnes les plus intéressantes en place, tu sais, c'est juste c'est les personnes les plus... jolies.
Ouais, c'est ça, c'est...
qui peuvent servir effectivement ce patriarcat nommé susmentionné.
On n'en parle pas, mais bon.
Mais oui, c'est ça. Ouais, enfin, coup, bref, je vais continuer d'écrire du théâtre tant que je vais sentir que je vais être encore pertinente. Ouais.
D'accord.
Puis sinon, après, ben, j'irai amener mon impertinence dans d'autres sphères littéraires. Oui, c'est ça.
Moi, je me demandais, ça avait moins rapport à ce qu'on parlait maintenant, mais plus dans le rapport du métier de dramaturge.
Ben oui, j'en ai si peu parlé.
C'est quoi la démarche complète de « Ok, première idée ». Ouais. Pièce jusqu'à ok, je la vois, je suis assise dans la salle, puis je la vois en train d'être jouée présentement. C'est quoi tout ce qui se passe?
Combien
de temps ça peut prendre?
Ben, c'est
l'investissement que ça peut prendre.
On est reparti pour un tour d'une heure.
C'est parti, on est là.
C'est parti. En fait, moi je dirais que ça prend en moyenne 3 ans de la première idée jusqu'à je suis assise dans la salle à la première.
Oui.
Mais ça peut être beaucoup plus long, justement, pour le spectacle pour adolescents qui s'appelle Rose. Pardon. Ça a duré 7 ans, je pense. Okay. Mais pour plein de raisons qui étaient hors de notre contrôle aussi. Il y a des pièces que ça a été beaucoup plus long. Il y a des pièces, j'ai eu la première idée il y a, tu sais, 11 ans plus tôt, 11 ans avant la première, tu sais, mais c'est juste, ça m'a tellement pris du temps à démarrer cette affaire-là, tu sais, parce que des idées, en fait, j'en ai des tonnes et des tonnes. Là. J'ai des cahiers remplis d'idées. Puis, je dirais que ce qui fait qu'une idée se déploie plus qu'une autre, c'est le fait qu'elle veut pas quitter mon cerveau, là, qu'elle est vraiment insistante dans mon cerveau. « Ok, je vais t'écrire. » Mais en même temps, les autres idées, je les aime bien. Puis si j'avais le temps, je pourrais, tu sais, m'y installer puis forger l'idée. Dans les premières années de ma pratique, je travaillais pas beaucoup l'idée avant de commencer à l'écrire. Ce qui faisait que j'écrivais pour avoir 100 pages, j'en écrivais 600, 700. Je réécrivais énormément. Je me lançais un peu dans le vide. Là. C'était un saut en bungee, l'écriture. OK, j'y vais. Puis justement, c'est ce qui faisait que c'était tant souffrant, la souffrance dont je vous parlais. Ce qui fait que ce que j'ai compris, je dirais, avec le temps, c'est que plus je réfléchis à ma pièce en amont, plus l'écriture va être facile, plus je règle des problèmes dans ma tête sans accumuler des mots sur du papier. Non seulement plus ça va être facile, mais plus aussi je vais pouvoir aller plus loin dans mon projet. Donc, c'est ça. Je dis souvent à mes étudiants, être couché, un auteur couché dans un hamac est un auteur au travail. Et donc, j'essaie de faire le plus possible ce travail-là. J'ai compris assez vite que les demandes de subvention qu'on fait, soit à titre individuel pour avoir des sous pour écrire, ou soit en production ou pour obtenir de l'argent pour des étapes de laboratoire ou tout ça, t'sais. En fait, il est de mise de tu sais, j'entends 90-95% des gens disent que c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Or, moi, très rapidement, j'ai décidé de me servir de ça comme d'un outil de travail, puis justement d'en tirer le maximum de profit. Puis je me dis, c'est l'occasion, avoir l'obligation d'expliquer où j'en suis par rapport à mon projet, c'est une façon aussi de l'avancer, tu sais, de faire le point, de l'avancer, de dire où c'est que je veux aller, tu sais. Puis donc, les étapes de demande de subvention sont très importantes pour moi. C'est, tu sais, j'y mets tout le soin possible parce que pour moi, ça fait partie des étapes de travail. Alors que tant de gens les écrivent vite sur le coin de la table. Et non seulement ça me sert dans ma pratique, mais ça me sert parce que comme j'y mets un grand soin, j'ai les sous.
Oui.
Donc ça, c'est, tu sais, il peut avoir plusieurs étapes, mais j'essaie de... Pour moi, ça fait partie de ma démarche d'auteur. Tu sais, ça fait partie de mon métier. Faire des demandes de subvention, c'est incontournable. C'est une obligation que j'ai appris presque à aimer, tu sais, faire ces... Fait que j'avance dans ma tête, j'avance dans mes notes. Et quand je me mets, j'attends d'être vraiment le plus loin possible avant de commencer réellement l'écriture. Ça fait que souvent, il s'est écoulé un an, deux ans avant, entre l'idée et le moment où je vais commencer à l'écrire. Puis ben là, après ça, ben, c'est le projet qui décide, dans le sens que, tu sais, ça peut bien aller, tu sais, dans le meilleur cas, ça m'a pris presque une semaine à écrire. Tu sais, ça, c'est ma pièce qui a été le plus rapide, là. Tu sais, je l'ai vraiment écrit vite, là. J'ai écrit la toute première version en à peu près 45 minutes.
OK.
Mais c'était 10 minutes, là. J'ai écrit 10 minutes. Okay. C'était la robe de Gulnara. Oui, c'est ça. La robe de Gulnara, au départ, on m'avait passé une commande, écrire un petit 10 minutes sur un camp de réfugiés en Azerbaïdjan. Donc, j'y ai pensé beaucoup. Puis, le moment où je me suis mis à l'écriture, ça m'a pris à peu près 45 minutes d'écrire 10 pages. Après, ça a été présenté dans le cadre d'un événement du Carrefour international, tout ça. Puis là, il y a eu tant d'enthousiasme que j'ai fait « OK, je vais écrire une pièce longue avec ce 10 minutes-là. » Puis la pièce longue à écrire, elle m'a pris à peu près 10 minutes. Puis j'ai... 10 minutes.
Je veux dire,
une semaine. Non, 3-4 jours. 3-4 jours. Puis après ça, j'ai eu une autre étape de travail qui m'a pris 3-4 jours.
Okay.
Puis après ça, ça a été terminé. J'ai pu vraiment retoucher.
Okay.
C'était la pièce qui a été présentée. Mais on a travaillé énormément sur le... Tu sais, parce qu'on l'a produit, on l'a coproduit avec plusieurs partenaires. Donc, on a travaillé énormément sur les demandes de subventions après, sur la mise en forme de cette affaire-là, tu sais, parce qu'en plus, c'est mon chum qui l'a mis en scène. Donc, moi, j'étais productrice, mais c'était plus tellement l'auteur qui travaillait, tu sais, c'était vraiment plus la productrice. Sinon, ça, c'est exceptionnel, c'est le miracle de ma vie d'auteur, là, tu sais, ça s'est plus jamais représenté, là, tu sais, jamais. C'est après, là, j'ai vraiment travaillé longtemps et avec acharnement, tu sais, sur mes textes. Puis habituellement, c'est ça, là. C'est comme là, j'ai un texte qui va être présenté au mois d'avril à l'Abordé, qui s'appelle 34B. C'est aussi une commande. C'est la commande d'écrire une pièce qui se passe dans la Dominion Corset, qui est une manufacture de sous-vêtements féminins qui a été en opération pendant 100 ans dans la basse ville de Québec. Donc, okay. Cette pièce-là, j'y ai réfléchi, j'ai fait des tableaux, j'ai fait des projections, pendant un an et demi. Après, je suis allée 2 mois en résidence à La Rochelle, et j'ai écrit comme la première version. Puis là, je suis en train d'écrire, présentement, là, je suis en train d'écrire la troisième version. Je dirais que depuis La Rochelle, je suis revenue au mois de juin. Puis j'écris ponctuellement, pas 40 heures par semaine, mais j'écris ponctuellement depuis pour arriver à la troisième version. Hier, j'ai envoyé, c'est comme... la troisième version, mais je sais que j'ai encore du travail. Il va y avoir une quatrième version avant la première au mois d'avril. C'est ça.
Puis tu écris encore pendant qu'ils mettent en scène la pièce?
J'espère bien que oui.
Okay.
En fait, yes, normalement, oui. En fait, quand c'est une pièce de Molière, bien sûr, la pièce est finie. Tu sais, ils vont peut-être... ils vont peut-être un peu jouer dans le texte pendant les répétitions. Mais quand c'est une création, donc le texte n'a jamais été éprouvé, tu sais, habituellement, puis là, la metteur en scène, c'est Marie-Josée Bastien, c'est sûr qu'elle a souvent travaillé en création, elle connaît très, très bien ça. L'auteur est là, on en profite, tu sais, on essaie de tu sais, s'il y a un problème, tu sais, je suis là, je peux réécrire des trucs. Donc, eux, ils bénéficient de moi, puis moi, ben, ils tolèrent que cette phrase-là m'exaspère, je vais la changer. C'est ça. Ça fait que oui, normalement, en fait, moi, à chaque fois que j'ai fait une création, jusqu'à la générale, j'ai changé des choses. Mais okay. Tu sais, plus on avance, évidemment, plus c'est mineur, là, oui. Tu sais... c'est pas... Puis c'est toujours au service du spectacle, là, c'est pour essayer de donner la meilleure production possible. Mais la moyenne de tout ça, c'est, je dirais, 3 ans.
OK. OK. Mais comme tu m'avais dit, comme tu avais dit en cours, tu fais plusieurs trucs en même temps.
Oui, c'est ça. Sinon, c'est ça. Mais j'ai toujours plusieurs productions en même temps, là. Tu sais, comme là, entre le mois d'avril puis le mois de tu sais... je vais avoir 4 productions là, entre le mois d'avril et l'automne. L'automne. En 6 mois, je vais avoir 4 productions.
Qui vont être montées?
Oui.
OK.
Puis mais tu sais, j'ai des projets. Tu sais, c'est ça. Il y en a qui remontent à écoute, là, c'est ça. Aucun de ces projets-là a été commencé à la même période de ma vie. Là, tu sais... Puis là, ben, je travaille sur des projets aussi, tu sais. Il y a ces 4 productions-là, mais tu sais, j'ai dans la tête des projets qui vont être peut-être juste présentés, produits dans 5 ou 6 ans, là, tu sais.
OK. Puis mettons, là, tu dis que tu as des projets, que ça fait longtemps que tu travailles dessus. Est-ce que, mettons, la version 1 et la version finale peut totalement changer vu que avec les années on change de point de vue sur beaucoup de situations puis on change tout court.
Absolument.
C'est ça, la version 1 puis la dernière est jamais la même, genre.
Jamais. Ça, en fait, à part la robe de Gulnara, là, mes premières versions puis la version finale, c'est il y a des mondes de différence. Ça m'est arrivé sur certaines productions là, de faire vraiment tabula rasa. Là. T'sais, t'sais, c'était une pièce à 11 personnages, c'est devenu une pièce à 2 personnages. Okay. Ça se passait dans ce lieu-là, puis ça raconte... T'sais, c'est ça. C'est parce que je pars tout le temps d'une... T'sais, il y a quand même quelque chose qui m'allume, là, tu sais. Il y a une affaire qui ne part jamais, tu sais, du début jusqu'à la fin, tu sais. Mais des fois, l'histoire va changer complètement, les personnages vont changer complètement, tu sais, c'est ça. Mais il y a une source, là, tu sais, qui est une anecdote ou une image ou un sujet que je veux aborder, tu sais, puis ça bougera pas, mais tu sais, ça peut tellement prendre de formes différentes, oui. Tu sais.
Moi, je vais juste dire que j'ai vraiment hâte d'être dans votre cours.
Oh! Ben, je pense qu'on s'amuse bien, hein, c'est oui. Fun les lectures, hein.
Oui.
Oui. Oui. Ouais.
Est-ce qu'on peut vivre juste d'écrire?
Certains le font, il y en a qui le font, tu sais, il y en a, je dirais que ça se compte sur les doigts d'une main les auteurs qui, au Québec,
ouais, les auteurs
surtout les auteurs de théâtre, là, tu sais, parce qu'il y a des auteurs de romans que oui, là, tu sais, il y en a plus, mais des auteurs de théâtre, il doit en avoir moins d'une dizaine au Québec qui ne font que ça pour vivre. Moi, je peux pas dire que je gagne juste ma vie avec ma plume parce que j'enseigne.
Oui.
Mais 100% de ce que je fais est lié à ma pratique d'auteur. Puis ça, c'est beaucoup plus que tu sais, ça, des auteurs qui vivent d'activités liées à leur pratique d'auteur, au Québec, je te dirais qu'il y en a, je fais une estimation très, très rigoureusement scientifique, 70, 80, il y en a, tu sais, okay, pas si pire. Oui, il y en a pas pire.
Oui, quand même.
Oui, je pense.
Il y en a beaucoup qui enseignent aussi l'écriture.
Oui, c'est ça, c'est okay. Ça. Puis il y a des gens qui... en fait, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui sont des comédiens ou des metteurs en scène.
Oui, OK, ouais.
Fait que ça, j'implique ça là-dedans. Ouais. Il y a des auteurs, c'est ça, il y a l'enseignement, il y a l'accompagnement dramaturgique, c'est ça. Il y a les directions de compagnie,
Mais c'est sûr que la plupart des gens qui écrivent, ils font autre chose en même temps.
Oui, c'est ça, parce que c'est ça. Mais tu sais, c'est fou, parce que moi, quand je suis, tu sais, dans le milieu, quand je suis présentée comme je suis présentée, tu sais, vu qu'il y a tant d'auteurs qui sont aussi metteurs en scène et comédiens, tout ça, tu sais, moi, on dit tout le temps, tu sais, ah, elle est juste auteur. je suis juste auteur. Tu sais, ouais. Puis ça, tu vois, à Québec, je suis pratiquement la seule, là. Puis il y en a qui écrivent aussi, tu sais, un petit peu justement pour la télé ou pour d'autres formes de tu sais, comme un peu comme moi aussi, tu sais. Mais là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas...
Il y a des personnes qui sont juste auteurs à Québec?
Ouais.
OK, ouais. J'en ai pas en tête, je connais pas les auteurs.
Non, ben, un bout de temps, Daniel Danis vivait à Québec, mais là, il vit plus à Québec. Fait qu'on était Daniel Danis et moi. Qui était juste auteur, qui n'était pas comédien et metteur en scène en plus. Mais sinon, c'est ça. Là, depuis qu'il est parti...
T'es toute seule.
Je suis la seule, mais il y a une communauté d'auteurs. Tu sais, le festival Jamais lu est rempli de textes d'auteurs de Québec, tu sais. Mais c'est que c'est des gens qui ont une pratique artistique autre.
Mais c'est ça. Ça converge tout le temps autour du théâtre, mais c'est jamais... exclusivement dans une sphère comme dans d'autres métiers.
Ouais.
plus logique, mettons, plus avec des ressources humaines qui décident tu as tel poste et tu y as...
Oui, c'est ça, et tu ne sors pas un doigt de c'est ce ça. Poste.
sinon, je suis en train de regarder les questions que j'avais notées. Est-ce que tu aurais des conseils pour des débutants qui voudraient écrire des pièces de théâtre ou des gens qui ont déjà écrit mais qui n'ont jamais écrit des pièces de théâtre? Des conseils rapidement, mettons.
Oui, rapidement.
Parce que je sais que tu donnes un cours au complet, là.
Mais... Ah oui, c'est ça. Puis même le cours au complet, c'est franchement, ça, c'est...
Il faudrait
c'est,
en avoir
c'est
cinq.
Six cours, cours oui. C'est si court, ce cours.
C'est ça.
je dirais... je dirais penser conflit. Tu sais, justement, c'est une des premières choses que je dis dans le cours. On raconte pas une histoire où tout se passe bien. Donc, les bonnes histoires sont celles où ça va mal. oui, bon. Ça, c'est, ça serait un conseil. Sinon, je dirais, vous avez le droit de vous inspirer de ce que vous observez dans la vie. Vous avez le droit de vous inspirer de votre propre vie, mais aussi d'aller piger dans vos mononcles, vos battantes, votre famille, vos amis, tout ça. Vous avez le droit d'aller voler des petits morceaux de vie et le transformer en pièce de théâtre. Ça, c'est, je le dis parce que moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de me donner ce droit-là. Je pensais qu'il fallait vraiment que tout soit inventé à 100%, puis ça me bloquait. Sinon, je dirais, amusez-vous. Essayez d'aller... en fait, c'est déjà tellement inconfortable d'avoir à créer un monde qui n'est pas réel, mais qui a l'air de l'être dans, sur du papier, que moi, je vous dis, allez... Ne sortez pas de votre zone de confort dans les sujets. Allez dans des sujets que vous connaissez, qui vous intriguent, qui vous rendent en colère, qui vous attristent. Mais allez dans ce que vous connaissez, donc dans cette zone de confort du connu. Puis je dirais, ne désespérez pas. J'aime aussi... rappeler, en fait, j'aime, en fait, pas rappeler parce que les gens ne le savent pas, mais j'aime donner cette information que ma première pièce de théâtre, c'était ma 7e.
Oui.
Donc, tu sais, les gens écrivent souvent une première pièce de théâtre en se disant « ça passe ou ça casse, puis c'est l'œuvre de ma vie et tout, là, tu sais, puis... » mais c'est ça. C'est normal que la première soit pas pile-poil parfaite ou si vous pensez qu'elle est pile-poil parfaite, tant mieux, mais imaginez la 7e. Oui, c'est ça. C'est ça. T'sais, personne n'a dit que c'était facile. Je me suis souvent répété ça. Personne n'a dit que c'était pas facile et c'est vrai! Oui, voilà.
C'est drôle parce que ce matin, quand j'étais sur Instagram, en fait, j'ai vu une petite vidéo de Martin Freeman.
Oui.
Donc, il y a un acteur des États-Unis
oui.
qui disait, dans ce type de métier, dans les métiers d'art, les métiers artistiques, le seul truc qu'il faut vraiment faire, c'est pas baisser les bras, c'est pas abandonner.
Oui. Persévérer. Donc, peut-être le plus grand conseil, persévérer.